Pour continuer dans le même sens, nous allons dans Nombre ce matin, au chapitre 13. Dans la parole de Dieu, qui elle aussi ne change pas, la parole de Dieu qui est inspirée de Dieu et qui nous révèle qui est ce Dieu. Et on est vraiment à point, je dirais, comment le Seigneur a dirigé d'étudier notre Dieu avec « Voici ton Dieu », le thème de l'année, et considérer un attribut après l'autre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis émerveillé de voir comment le timing est là tout le temps, de savoir que c'est toujours à point la chose à laquelle on est rendu de considérer. Que ça a été dans le passé, on a eu Dieu Tout-Puissant, puis des choses comme ça. Là, Dieu immuable. Moi, en tout cas, j'en avais besoin pour mon propre cœur. J'ai hâte qu'on considère ensemble aujourd'hui ce deuxième message dans le mois d'août sur le thème de notre Dieu immuable. On va lire les versets 25 à 33, puis ensuite je vais prier, puis on va considérer dans ce passage et un autre passage dans le Nouveau Testament qu'on va lire dans un instant, l'appréciation du Dieu immuable. Donc, Nombre 13, vous êtes là, tout bon? Nombre 13, on commence au verset 25. Donc, là, juste pour vous situer le contexte, c'est l'exploration des pays de Canaan par les espions, et là, ils sont de retour, OK? Juste pour vous, au lieu qu'on lise tout le chapitre au complet, là. Donc, ici, quand les espions, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. » Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Éthiens et les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » On te remercie, Seigneur, que c'est ta parole qu'on a entre les mains maintenant et qu'on veut graver sur nos cœurs. Seigneur, merci que ta parole est vivante parce que tu es vivant. Tu es présent maintenant au milieu de nous. Et toi, Esprit du Dieu vivant, on te prie que tu ailles au-delà de juste nous enseigner ce matin, mais transforme-nous. Transforme-nous, Seigneur, là où on est rendu dans notre marche. Et s'il y en a ici qui ne sont pas encore nés de nouveau, transformés par la nouvelle naissance en Jésus-Christ, qu'aujourd'hui soit le jour merveilleux de leur salut. Seigneur, on te remercie que tu ne changes pas, que ce qu'on vient de lire, qui est arrivé il y a des milliers d'années, les choses que tu as faites dans le passé, les promesses que tu as faites, Seigneur, tu es le même Dieu qui est encore capable de tenir ses mêmes promesses. Merci, Seigneur, qu'on peut s'appuyer sur toi, parce que tu ne changes jamais. Puisses-tu, Seigneur, nous amener à apprécier le fait que tu ne changes pas. Et je prie spécifiquement ce matin, Seigneur, alors qu'on considère ta parole, que ce que tu vas nous montrer à chacun, qu'on y ajoute foi. Que ces choses que tu vas nous montrer, on puisse se confier en toi pour que tu les accomplisses. Seigneur, tu avais fait des grandes promesses par rapport à la terre promise, mais ces promesses ne leur ont servi à rien parce qu'ils n'ont pas ajouté foi à ce qu'ils ont entendu. C'est ce qu'on vient de lire. Seigneur, qu'il n'en soit point de de même pour nous ici. Mais qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui? Vraiment, on s'y accroche comme étant notre vie, comme étant notre victoire, notre espérance. Et Seigneur, on croit que c'est ce que tu nous révèles dans ta parole, que tu rémunères ceux que tu cherches. Alors merci pour ça, on se repose dans ce fait que tu es vivant encore aujourd'hui pour faire des choses grandes et merveilleuses qu'on ne connaît pas. Parmi nous, ton faible petit peuple, dans lequel tu veux montrer la grande puissance de ta grâce. Et c'est en ton nom, avec une pleine confiance, qu'on te prie ces choses. Amen. Amen. Alors, comme je le disais en intro, je trouve vraiment que c'est le timing. En tout cas, je ne sais pas si c'est juste moi, là. Peut-être que vous avez trouvé, mais le fait qu'on étudie la personne de Dieu à travers ses attributs, c'est tellement à point. Pourquoi? Parce que, savez-vous, je pense que ça nous manque un grand besoin spirituel que nous avons de connaître notre Dieu. Et je dis connaître notre Dieu, pas connaître des choses au sujet de Dieu, mais apprendre à connaître notre Dieu, comme on apprend à connaître un ami, comme on apprend à se connaître en famille, puis avoir cette confiance de dire « Ah, mon Dieu! » Il est au-dessus de ces choses-là. Ah, mon Dieu, je peux y faire confiance. Il s'est prouvé dans le passé, il va encore se prouver dans l'année. C'est ça qu'on a besoin de connaître sur notre Dieu, parce que Dieu est tout-puissant, Dieu est immuable, Dieu est juste, Dieu, toutes ces choses-là qu'on apprend sur lui, c'est notre réconfort, c'est notre sécurité, c'est notre paix, spécialement dans des temps comme ça. Et c'est aussi l'espérance de ce monde. Quand on partage ça, lorsque c'est une réalité dans notre vie, mes amis, c'est un message que les gens qui n'ont pas cette espérance, qui ne connaissent pas encore ce Dieu merveilleux, ils ont besoin de l'entendre parce qu'ils n'ont pas ça nulle part ailleurs. Ils n'ont pas ça dans les religions vaines, ils n'ont pas ça dans la philosophie du monde, ils n'ont pas ça dans les plaisirs du monde. Ça ne se retrouve que dans notre Dieu, sa parole et par son esprit. Et donc, vous savez, on considère ici notre Dieu immuable dans ce passage du livre des Nombres, et je pense que ça l'illustre bien, ce qu'on vient de lire, notre besoin d'apprécier le Dieu immuable. C'est le titre du message ce matin, l'appréciation du Dieu immuable, dans le sens de qu'on trouve ça précieux, qu'on apprécie le fait que notre Dieu ne change pas. Et on va regarder ça avec ce passage-là qu'on vient de lire. Et on va aller à la fin de l'Évangile de Luc aussi pour faire le parallèle avec un autre texte. Et je pense que là, ce qu'on vient de lire ici doit d'abord pour nous être un sobre avertissement par rapport au danger de ne pas apprécier le fait que notre Dieu ne change pas. Savez-vous, ces gens qui sortaient de la terre promise, Dieu leur avait fait des promesses. Il leur avait dit « Je vous donne la terre promise ». Puis en plus, il a prouvé par les grands miracles ici au livre des Nombres, là, il était sorti de l'Égypte, il avait vu la fidélité de Dieu, il avait vu sa toute-puissance, il avait vu ce qu'il était capable de faire. Puis en plus, il avait entendu les promesses qu'il avait faites. OK? Mais on a un commentaire inspiré de ce qui est arrivé ici, parce que dans le livre d'Hébreux, au chapitre 4, puis dans aussi dans 1 Corinthiens chapitre 10, ça nous parle de ces événements qui sont arrivés là, puis on apprend que le problème, c'est ils n'ont pas ajouté foi. Ils n'ont pas cru ce que Dieu... Dieu était là, il était fidèle, puis il était capable de tout faire ça, mais ils n'y ont pas cru. Et ce que j'aimerais qu'on retienne comme leçon pour aujourd'hui, Dieu faisait ici des choses dans le domaine physique, okay, en leur donnant une terre promise, ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, le pays de Canaan, ça le nomme dans la Bible. Mais j'aimerais faire le parallèle avec une situation... Où est-ce que c'est spirituel? Par rapport à la terre promise de la vie abondante. La terre promise de des promesses qu'on a en Jésus-Christ. Et donc, c'est pour ça que je vous demande, là, ce que je vais vous demander de faire, vous avez un petit papier ou quelque chose, si vous mettez une main, mais vous ne pourrez pas vous en servir pendant le reste du message, mais gardez quelque chose dans Nombres, parce qu'on va faire le parallèle avec le livre de Luc au chapitre 24. Vous avez un signet comme ça dans vos Bibles? Mettez-le dans Luc 24. On va faire de l'aller-retour entre les deux chapitres, OK? Entre Nombres 13 et Luc 24. Et j'aimerais qu'on lise, pendant que vous vous rendez là, je vais juste vous dire que les Les versets qu'on va lire, ça fait partie de l'histoire de ce qu'on appelle les deux disciples d'Emmaüs. OK? Ça, c'est après la résurrection. Donc, notre Seigneur a été crucifié, 3 jours dans le tombeau, ressuscité. Luc 24, on arrive dans la vie de 2 hommes qui se promènent, qui, sincèrement, avaient pas mal de misère. OK? Il y avait de la misère avec leur espérance puis les promesses de Dieu. Parce que là, c'est comme si tout ce à quoi ils s'attendaient, c'est comme si c'était tout tombé à plat. Cet homme incroyable qu'il avait vu, qu'il avait côtoyé, c'est comme si là, oups, il n'arrivait plus rien avec ça. On prend l'histoire à partir du verset 18. Où est-ce qu'on apprend le nom de l'un de ces deux-là? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit, donc il parle ici au Seigneur Jésus, qui se met à faire route avec eux autres. « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, à Jérusalem, ne cherche pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Et j'aime tellement la réponse de Jésus, il dit « Quoi? » Je pense que Jésus savait. « Quoi? » leur dit-il. Mais Jésus voulait les faire parler. C'est pas parce que Jésus avait besoin d'informations. Vous savez que souvent, quand Dieu nous fait parler, là, c'est pas parce qu'il a besoin d'apprendre quelque chose. C'est parce qu'il veut juste nous faire exprimer ce qui est dans notre cœur. Puis c'est exactement ce qui est arrivé ici. Et donc là, il prend la parole et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, voyez-vous, il avait comme perdu l'espérance. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors, Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit passé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. On a ici un passage où est-ce que je vois un parallèle, où est-ce qu'eux autres aussi avaient des promesses passées sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer, puis ça les aidait dans la situation présente. OK? La Bible nous dit, au verset 16, on ne l'a pas lu, mais ça dit qu'ils n'ont pas reconnu Jésus parce que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Je ne sais pas trop pourquoi, là. C'est leur incrédulité, c'est Dieu qui... Le timing, je ne sais pas trop, mais ça nous dit plus tard que vraiment, il s'est révélé plus clairement. De toute évidence, Jésus, son apparence, peut-être dans son corps glorifié, il n'était pas aussi reconnaissable que la dernière fois qu'il l'avait vu. Mais une chose est certaine, c'est que la question ici, dans les 2 textes qu'on a vus, la question centrale, la tournure des événements, c'est autour d'ajouter de la foi à ce qu'il avait déjà entendu. Donc, je vais vous dire ce principe, ça va être ce qui va guider notre message ce matin. Par rapport aux 2 textes, voici ce qu'il y a en commun, un principe spirituel que je veux qu'on voit, puis on va le développer pendant tout le message. Si nous ne croyons pas à ce que Dieu nous a déjà dit, OK? Comme Israël, il y avait eu les promesses, hein? Ah, la terre promise, toutes les promesses étaient là. Ici, les prophètes avaient dit que le Christ allait venir, qu'il allait souffrir, qu'il allait... OK? Tout était dit. Si nous ne croyons pas à ce que Dieu a déjà dit, OK? Si on n'y croit pas maintenant dans le présent, ou pour le mettre très actuel ce matin, si ce matin, ce que Dieu vous dit là, dans le moment présent, si vous n'y croyez pas, si ce n'est pas l'objet de votre confiance, si vous n'y agitez pas votre foi, parce que le juste vit par sa foi, OK? Bien, plus tard, vous ne pourrez pas comprendre, on ne pourra pas comprendre ce que Dieu veut faire par la suite. Si on n'est pas en train de croire dans le présent, on n'est pas prêt pour ce que le Seigneur a pour nous dans l'avenir. OK? C'est simple, mais c'est ça le principe. Parce que le présent, là, ça ne dure pas très longtemps. Dieu nous dit quelque chose dans le présent, puis tiens, là, c'est déjà dans le passé ce que je viens de vous dire. Le temps fuit. C'est un des philosophes, je ne sais pas lequel qui a dit ça. Le temps fuit, mais ne se rattrape pas. C'est-tu Cicéro, je ne sais pas trop c'est lequel, mais bon. Et c'est vrai. Et le passé, ça arrive vite. Et donc, l'idée ce matin, c'est que si le Seigneur me montre des choses sur lui-même, en ce moment, okay? C'est parce qu'il veut me préparer avec ces choses-là pour l'avenir. Dieu ne nous dit pas juste des choses au sujet de lui-même et de sa parole, juste pour passer du temps, pour nous divertir comme quand on écoute un film. Non, Dieu nous révèle des choses sur lui-même pour qu'on se confie là-dedans, pour qu'on soit prêt à ce qu'il y a pour nous à l'avenir. Personne ne connaît l'avenir. On parlait de ça tantôt. J'espère que l'enlèvement, c'est bientôt. Mais ça peut être... Jésus lui-même a dit, personne ne connaît le jour... ni l'heure. Donc, on ne sait pas c'est quand, mais on sait que si on croit ce que Dieu nous dit en ce moment, on va être prêt, peu importe ce que Dieu a pour nous dans l'avenir. Et j'aimerais juste souligner que dans les deux textes qu'on a lus, Dieu montrait des choses sur lui-même dans des circonstances qui étaient très difficiles, très changeantes. On parle du livre des Nombres, là, mais pensez-vous, il était en Égypte, il y avait toute leur routine, là. Bon, c'était de l'esclavage, c'était pas le Club Med, là. Mais là, ils sortent de là, puis tout change, puis là, on parle de circonstances très changeantes, OK? Ils étaient sédentaires, ils sont devenus nomades, OK? C'est à peu près ça qu'on peut dire sur la situation dans le livre des Actes, des Nombres. Et pour, ici, les disciples de Jésus-Christ, ils ont suivi Jésus pendant 3 ans, mais là, on dit, oh, les choses sont vraiment mal en pire, la tension sociale monte, le meurtre contre Jésus est de plus en plus évident, les choses qui devaient arriver arrivent, il est crucifié, puis là, OK, on parle non seulement de changement, mais de traumatisme. C'était traumatisant, autant dans le livre des Nombres que dans le livre de Luc, les gens vivaient un profond traumatisme par rapport à leur vie. Et le plus grand besoin qu'ils avaient, comme pour nous, mes amis, c'était de voir et ainsi de croire que Dieu était en train de révéler sur lui-même. La solution, c'était pas de tout comprendre les circonstances, c'était pas de tout voir, c'était de saisir qui était celui qui faisait ça. Ce que j'aimerais qu'on voit ce matin, c'est Dieu qui changeait pas. Il y avait un grand réconfort là-dedans. Parce que Dieu promettait la terre promise physique dans le livre des Nombres, et dans Luc, puis après ça, tu sais, après les Évangiles, c'est le livre des Actes, c'est la terre promise spirituelle, la vie abondante par le Saint-Esprit, puis, OK? Donc, Dieu voulait qu'il voit au-delà, il voit qui il est, qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qui est celui qui est en train de faire ces choses-là, au-delà du traumatisme, OK? Même s'il ne comprenait pas tout, il voulait voir c'est qui est en train de faire ça. Et mes amis, ça ne pourrait être plus d'actualité que dans le moment actuel dans lequel on se parle. Parce que pour qu'on puisse voir, OK, quand je parle de voir, je parle des yeux de la foi, OK? Pour qu'on puisse avoir la vision spirituelle que le Seigneur veut qu'on aille, il faut qu'on saisisse qui est-ce qui est en train de faire ça. Et vous, c'est quoi notre problème? Souvent, on devient fixé, voire obsédé, sur qu'est-ce qui arrive. Mais la question, c'est pas qu'est-ce qui arrive, parce que souvent, il y a tellement de choses qui nous échappent, c'est tellement grand, on peut pas tout comprendre. La question, ce matin, c'est pas qu'est-ce qui arrive, c'est qui est-ce qui est en train de le faire. C'est ça, la question. C'est ça, notre secours, c'est ça, notre délivrance, c'est qui est-ce qui est en train de faire ça. Ah, c'est Satan, t'as-tu vu le mensonge? Oui, c'est vrai. Satan fait bien des affaires. Mais c'est qui permet ça? C'est qui a tout dit d'avance que ça allait arriver? Au bout du compte, c'est qui la cause première? C'est Dieu. Et c'est ça qui est important de se rappeler. On est dans les derniers temps, OK? Moi, je vous dis, m'attends que l'enlèvement soit vraiment n'importe quand, plus que jamais, OK? On a toujours cru qu'il était imminent, mais on dirait qu'il est comme plus imminent en ce moment, si je peux dire ainsi, OK? Et c'est ça qu'on a besoin. C'est une question de vision spirituelle. Et si je ne parle pas d'avoir des visions, mais la compréhension de la foi, de voir les choses à travers la vision de la foi. OK? Et ça va nous donner la bonne compréhension des choses. OK? Et il y a un lien entre la vision puis l'audition. OK? Parce que lorsque je vois mes circonstances à travers les lunettes de la parole, de l'esprit, OK, que Dieu est au contrôle, Dieu est en train de faire quelque chose, Là, mes oreilles vont être disposées à écouter sa voix, celui qui fait ça. Mais si je suis tellement pris dans les circonstances, puis je deviens esclave de tout ça, puis je vois... Là, il y a plein de bruit dans mon âme, dans mon cœur. Dieu, même s'il veut crier dans mes oreilles, j'entends pas. Pourquoi? Parce que mes yeux sont pas à bonne place. Il y a un lien direct dans où est-ce que mes yeux sont versus la disposition, bon, de mes oreilles, de mon cœur, vous comprenez-vous, à entendre la voix du Seigneur, à entendre la voix de mon berger, du bon berger. Et donc, puis en passant, vous rappelez-vous, la semaine passée, on a vu dans le livre d'Exode comment Israël, avec les grands travaux difficiles qu'il y avait, à cause de cette condition-là, leurs oreilles étaient appesanties et ils ne pouvaient pas entendre la voix de l'Éternel. OK? Pourquoi? Parce qu'ils voyaient toutes ces choses-là qui arrivaient, ils étaient troublés, il y avait tellement de bruit dans leur âme qu'ils n'entendaient plus la voix du Seigneur. C'est pour ça que notre plus grand besoin, c'est de voir le Seigneur qui est en train de faire tout ça afin d'être disposé à entendre sa voix. Si on prend un exemple extrême, imaginez-vous là, que cette semaine, il arrive des méchants événements de fous, puis là, on devient comme l'église de la Chine, où est-ce que là, il faut qu'on se rencontre clandestinement, puis OK, là, je mets ça à l'extrême, je suis pas en train de dire que c'est ça qui va arriver, là, malgré qu'on ne sait jamais, mais il va être où notre secours, ça va être où la solution? De tout comprendre ce qui arrive, puis non, ça va falloir vraiment, va-t-il falloir qu'on l'entende la voix de notre bon berger? Oh, mes amis, plus que jamais. Ben pour ça, il faut que là, en ce moment, ce que Dieu nous dit là, qu'on l'écoute, qu'on y croit, puis Dieu va nous préparer pour ce qui... Tu sais, j'ai mis ça à l'extrême pour cette semaine, je ne sais pas ce qui va arriver, ça va être une semaine bien ordinaire, peut-être ça va être une semaine extraordinaire, on ne sait pas. Mais Dieu, il sait. Puis nous, ce qu'on a juste la chose qu'on a à soucier ce matin, c'est Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire maintenant? Puis avec ça, OK, je vais me confier en toi, je te crois là-dessus. Dieu, merci de me révéler ça sur toi. J'y crois, je m'y confie, c'est ma sécurité. Puis Dieu va s'occuper du lendemain. À chaque jour suffit sa peine, le lendemain aura soin de lui-même. OK? C'est ça, avec ça qu'on s'en va pour le message ce matin. Une dernière chose par rapport à tout ça. Je pense que le message est bien à point pour nous, puis pour la suite des choses, parce que le fait qu'on soit prêt ou non à ce que Dieu a pour nous à l'avenir, c'est d'avoir cette vision spirituelle, de voir notre Dieu au-delà des circonstances pour qu'on soit capable de l'écouter. C'est ça qui va déterminer si on est prêt ou non. Je ne sais pas si on a regardé assez d'informations sur ce qui arrive, je ne sais pas si... Non, c'est si on voit notre Dieu et si on entend sa voix. OK? Et c'est pour ça qu'il faut être attentif, il faut être sobre, veillé. Parce que oui, notre adversaire, il lutte comme un lion rugissant, puis mes amis, plus que jamais. Mais maintenant, on veille en s'attendant à ce que Dieu va nous dire ce dont on a besoin d'entendre. Et juste là-dessus, je veux qu'on regarde ensemble avec nos deux textes de ce matin, trois façons d'arriver à une réelle appréciation du Dieu immuable. D'abord, dans Nombre 13, juste le verset 33, regardez avec moi. Il dit, là, je vais pas vous dire tout le temps de tourner, gardez vos places aux deux endroits, là, dans Luc 24 aussi. Regardez le verset 33. Ici, c'est les espions incrédules là, qui parlent. Ça dit, nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Voyez-vous comment ici, les questions de perception spirituelle, leur vision spirituelle des choses? Eux autres, tout ce qu'ils voyaient, c'est les problèmes. Tout ce qu'ils voyaient, c'est les obstacles. Ils avaient complètement perdu de vue le Dieu qui leur avait dit, « Je vous le donne! » Savez-vous que la façon dont Dieu en parle, il dit, « Ah, peut-être que vous... » Non, il dit, « Prenez-en possession, je vous le donne déjà, il est à vous. » Pour Dieu, c'était quelque chose de réglé, puis il leur avait dit de telle façon aussi que c'était réglé. Le seul qu'il croyait, c'était Caleb. Donc, c'est vraiment ici un problème de vision, de perception spirituelle. Qu'est-ce qui arrivait? Leur vision du monde physique. Ah, des géants, puis des villes fortifiées, puis pas juste deux, trois géants, plein de géants, puis des peuples partout qui sont forts, puis sont habitués à la guerre. Ça les empêchait de voir la provision spirituelle de Dieu. Dieu avait pourvu. Dieu, là, il est tout puissant, il n'y a rien qui peut l'arrêter, puis il avait dit, je vous le donne. Bien, ce qu'ils voyaient avec leurs yeux physiques, ça leur empêchait de voir ce que Dieu leur donnait déjà avec les promesses de sa parole. Ils méprisaient la provision physique de l'Éternel parce qu'ils ne voyaient pas sa provision spirituelle. Est-ce qu'ils parlent comme le peuple du Dieu Tout-Puissant, du Dieu qui les aime, du Dieu des promesses, du Dieu de l'Alliance? Non, pas en tout. Pas en tout. Une grosse différence avec Caleb. Regardez au verset 30. Caleb, il parle comme un fils de l'Alliance. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Il y avait zéro doute dans son... C'est réglé, on va gagner parce que Dieu l'a dit. Il acceptait, il s'appropriait la victoire que Dieu avait promise. Vraiment, ça nous montre qu'ici, c'est une question de perception spirituelle, de vision des choses. Et voici, pour en revenir à mon principe que je vous disais au début, ces espions avaient besoin de considérer la réalité dans le présent de ce Dieu-là qui est le Dieu de l'Alliance, de ce Dieu-là qui est le Dieu des promesses, de ce Dieu-là qui est celui qui garde les promesses. Il fallait dans le présent qu'ils considèrent, puis ils ont pensé à côté. C'est la différence. Voyez-vous le principe, je vous dis, Caleb, là, dans le moment présent qu'il était là, il arrivait de la même place que d'eux, il a vu les mêmes géants, il a vu les mêmes villes, OK? Mais lui, dans le présent, là, ce qu'il voyait, là, c'est son Dieu qui était capable de leur donner. Les autres, là, dans leur moment présent, ils ont passé à côté parce qu'ils n'ont pas cru à ça. Voyez-vous? C'est exactement ce que je vous expliquais au début. C'est là la différence entre les deux, entre Caleb et les espions incrédules. Puis en passant, je pense qu'ils voyaient non seulement le Dieu qui ne change pas, mais je pense que mon intuition me dit que Caleb voyait que Dieu était tout-puissant, qu'il était fidèle, que Dieu était omnipotent. Il était omniprésent, il allait être avec eux autres dans le futur comme il était avec eux autres dans le passé, qui était omniscient, qui connaissait toutes choses. Ils avaient vu les enfants d'Anak et toutes les autres, que c'était leur Dieu protecteur, puis c'était leur Dieu souverain. Je pense qu'il y a pas mal d'affaires que Caleb il pouvait s'accrocher pour avoir confiance, pour parler comme il parlait sur le fait d'être vainqueur. Et le plus grand problème de ces espions incrédules, qui est manifesté ici, ils n'appréciaient pas leur Dieu. Ils peut-être parler de Dieu puis dire c'est notre Dieu, mais ils ne l'appréciaient pas. Il n'y avait pas l'appréciation de la foi. Pour eux autres, c'était une réalité lointaine, c'était pas une réalité présente. Et ça s'est montré comment? Ils ont juste vu le physique puis ils n'ont pas vu l'invisible. Ils ont juste vu le visible puis ils n'ont pas vu l'invisible. Et savez-vous quoi? Dans la vie, là, puis c'est encore de même, là, c'est toujours de même. Le physique est toujours assujetti au spirituel. Ou pour le mettre autrement, le spirituel supplante et plus fort. Vous savez, dans le monde physique, il parvient bien des affaires, mais vous savez quoi? Ce qui contrôle ce qu'on voit dans le monde physique, c'est le monde invisible. Tandis qu'il arrive donc bien des choses dans le monde. Mes amis, en ce moment, la guerre dans les lieux célestes, là, ça brasse. Tu sais, du temps de Daniel... Il prie, puis là, ça a pris 3 semaines, 21 jours avant que l'ange arrive. Puis je ne sais pas si Daniel a dit, mais ça me semble que tu es en retard. C'est parce qu'il se battait. Pendant 3 semaines, c'est des affaires qu'on nous, c'est une petite fenêtre qui est ouverte sur le monde invisible. Mais il se passait pas mal d'affaires dans les lieux célestes, mes amis. Encore là, mon intuition me dit que je pense qu'il se passe pas mal d'affaires dans les lieux célestes en ce moment. Peut-être même plus que qui est jamais arrivé dans l'histoire. On est dans la grande bataille finale. OK? C'est pour ça qu'il faut garder les yeux sur celui qui est au-dessus de tout ça. Puis aussi garder le fait sur les yeux de si vous êtes ici, puis vous êtes un chrétien, vous êtes en Jésus-Christ. Savez-vous que c'est pas de la prétention de dire qu'on est complètement au-dessus de la mêlée, complètement au-dessus de la bataille. On est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. C'est pour ça qu'on n'est plus comme. On n'est pas victime de ce qui arrive ici. On est au-dessus parce qu'on est en Jésus-Christ. Et lui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et tout ce qui peut nous arriver dans notre corps ici, c'est lui qui va le permettre, il est souverain, il sait ce qu'il fait, on n'a aucune crainte à avoir. C'est pour ça que je veux que comme église, on se rassemble pour s'encourager dans la foi. Je veux pas qu'on amène l'esprit de peur qui est dans le monde ici. Ça n'appartient pas à l'église de Jésus-Christ d'avoir peur dans des moments comme ça. C'est normal d'avoir peur humainement. Mais on ne veut pas se rassembler pour être pire, puis se faire peur, puis se rappeler comment qu'on devrait avoir peur. Non, on veut s'exciter à l'amour, puis aux bonnes œuvres, s'encourager dans la foi dans notre Seigneur, puis ensemble avoir les yeux sur celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Dans Luc, on ne va pas y aller maintenant, mais le parallèle qu'on peut faire, la provision de Dieu, c'était quoi pour ces gens-là qui étaient découragés? Là, ils avaient vu la croix, puis la croix, c'est quelque chose de grandiose, puis je pense pas qu'ils comprenaient absolument tout ce qui était dans la croix, là, malgré qu'il y avait toute l'ancienne. Mais c'est tellement grand, puis... Mais la provision de Dieu, c'était quoi? C'était la résurrection. Dieu avait donné la vie là où eux autres, ils avaient vu la mort, puis la défaite, hein, d'une façon, parce que... Ça avait bien l'air de mal finir leur affaire. Oh non, en fait, c'était le triomphe. Dieu avait pourvu à sa toute-puissance pour ressusciter des morts son fils afin que la victoire soit complète en lui. Et sur ce premier point, sur la vision de Dieu, sur la provision de Dieu, pardon, je vous pose juste cette question-là. Est-ce que ce matin, tu peux dire que tu vois et tu apprécies la provision de Dieu dans ta vie? C'est-à-dire, je ne sais pas de quoi tu as besoin. Je ne sais pas dans quelle situation exactement tu es en ce moment, puis c'est quoi tout ce qui arrive dans ta vie? On se connaît, puis on se côtoie, mais... Ou les besoins profonds du cœur. Mais la question, c'est... Est-ce que tu vois que Dieu a pourvu exactement ce que tu as besoin dans ce que tu es en train de vivre en ce moment? Savez-vous que c'est comme ça que Dieu est? Si vous êtes un enfant de Dieu, la Bible dit qu'on a tout pleinement en Jésus-Christ. Il ne nous manque rien. Il ne dit pas qu'on va avoir ce qu'on veut nécessairement. « Oh, ça va virer de même, ça va être facile. » Non, mais ce que j'ai besoin, Dieu le pourvoit. Tant qu'en ce moment, mon plus grand besoin, c'est que je me repose en Jésus-Christ. Que j'arrête d'être si agité et que... Tant qu'avec tout le bruit que j'ai, c'est juste de faire silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'État. Savez-vous que Dieu pourvoit ces choses? Si vous vous asseyez avec le Seigneur, vous ouvrez sa parole, Dieu va vous donner son repos, il va vous donner le silence. Il va vous donner tout ce dont vous avez besoin. La question, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu l'apprécies? Parce que Dieu le donne, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut qu'on le prenne. Puis pour le prendre, il faut le voir. Il faut voir notre besoin, il faut voir la provision de Dieu. C'est la première chose qui va nous faire apprécier notre Dieu immuable. La deuxième, on avance au chapitre 14, verset 34, toujours dans Nombre. Non seulement on a besoin de voir la provision de Dieu, mais on a besoin de voir sa présence. Regardez ici Dieu, puis il commençait à manifester sa colère ici face à l'incrédulité de son peuple. Il dit au verset 34, « De même, ici c'est l'Éternel qui parle, que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. » Le verdict est tombé. Une année pour chaque jour. Et regardez ce que ça dit. « Et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. » Ouf! J'aurais pas aimé ça être là. On dirait qu'il ne devait pas se sentir très gros dans leur culotte, comme on dit au Québec. Ici, ce que Dieu implique par dire « vous saurez » ou « ils sauront » ce que c'est d'être privé de ma présence. C'est qu'on voit, dans le fond, l'incrédulité. Parce qu'ici, bon, le peuple était incrédule. Okay? Ils ont rejeté la promesse de Dieu, ils ont rejeté le Dieu de la promesse. Le Dieu, ben, à cause de ça, vous allez être privé de ma présence. Savez-vous que lorsque, le principe que je parle, lorsque Dieu me parle des choses sur lui puis que j'y crois pas, je m'éloigne de Dieu. Je m'éloigne de Dieu. Je me prive de sa présence. OK? C'est pas parce que Dieu n'est pas là. Tu sais, c'est comme une journée en semaine, il n'y a plus de soleil. Mais non, le soleil est là, il est juste caché derrière les nuages. Dieu est toujours là, puis dans sa bonté, il est dans notre vie. Mais des fois, il y a des nuages, puis on ne le voit pas toujours. Puis on s'éloigne de lui, puis il y a toujours des conséquences. S'il y a eu des conséquences, 40 ans dans le désert, et c'est, eux autres n'ont pas cru, c'est leurs enfants qui sont rentrés. Mais je veux aussi jeter votre attention sur les versets 17 et 18. Regardez Moïse, avec son cœur de berger pour ce peuple, qui intercède. Regardez verset 17. « Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Savez-vous ce que je vois ici dans la prière? C'est une prière d'intercession de la part de Moïse. Il s'appuyait sur le fait que Dieu ne change pas. Il savait qu'il était lent à la colère, riche en miséricorde. Mais aussi, il savait qu'il n'a jamais excusé le péché. Et quand il intercède, il s'appuie sur ce qu'il connaît de son Dieu puis qu'il ne change jamais. OK? Il plaide en se basant sur le fait que Dieu ne change pas. Savez-vous qu'on doit, spécialement en ce moment, on va trouver une grande sécurité, un grand réconfort, le fait de prier sur ce qu'on connaît de notre Dieu puis qu'on sait qu'il ne va jamais changer. C'est une valeur refuge. Dieu, tu le dis dans ta parole que tu es souverain. Et je me rappelle ça, mon Dieu. Tout ce qui arrive, il n'y a rien qui échappe à ta main. Tu n'es pas l'auteur du mal, mais tu peux le permettre, puis tu es capable de transformer le mal en bien. Dieu, c'est à toi, je regarde le Dieu souverain de toute la terre. Les nations sont dans ta main, le cœur des rois est dans ta main. Dieu est souverain. Et ça, ce n'est juste un, on peut en donner aussi beaucoup d'autres. Ça doit imprégner l'esprit de nos prières, comme ici avec Moïse. Et si vous faites un petit tour avec moi, gardez votre place dans Nombre, mais venez avec moi dans Luc 24, je veux faire un parallèle sur la présence de Dieu. Ça nous dit dans les versets qu'on a lus dans Nombre que vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Ici, au contraire, ces disciples étaient bénis par la présence même du Seigneur Jésus ressuscité avec eux. Regardez au verset 16. Ça dit, mais là, on commence au verset 15. « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Puis regardez le verset 31. « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. » Ça va être quand même spécial. Tout ce temps-là qu'ils parlaient, Jésus était là directement avec eux. Puis même, il leur a expliqué les Écritures, puis c'est juste à la fin. Leurs yeux se sont ouverts, puis ils l'ont reconnu. C'est quand même pas surprenant qu'ils disent, « Vous, hommes, qui êtes lents à croire. » Bon, on peut se penser bon, là. « Ah, moi, j'aurais cru. » Je suis pas sûr. Moi, je pense que j'aurais été comme eux autres. J'aurais pas plus cru qu'eux autres. Mais ça montre le cœur humain. On est lent à croire. Mais le point ici que je veux amener, c'est que Jésus, ressuscité, était là, présent avec eux. Puis eux autres ne s'en rendaient pas compte. Je veux juste vous montrer qu'il y a une force spirituelle incroyable dans ce que, tu sais, le principe que je vous parle, là. Le fait de croire ce que Dieu nous dit maintenant. Mes amis, il y a toute une puissance spirituelle là. Dieu est avec nous, Dieu est vrai, il ne ment jamais. On l'a vu dans Hébreux 6:18, c'est ça? Dieu ne change pas, il ne peut pas mentir. Mais tout ça va me servir à rien, je vais passer à côté si je ne le vois pas. Mon besoin de voir la présence de Dieu. Comment tu peux faire voir un Dieu qui est invisible? Ben, comme Jésus a dit, avec l'esprit, hein? Il a fait le parallèle avec le vent. On le voit par ses fruits. Ah, Dieu, on ne le voit pas. Le matin, on se lève et on voit une apparition de Jésus dans une vision. Non, mais on voit par ce qu'il fait. Dieu est présent dans nous par les réponses aux prières, par le réconfort qu'il donne, par la réalité de l'esprit. Lorsqu'on lit, puis que ça s'applique à nos cœurs, son réconfort. La réalité de Dieu est là, est présente, mais l'idée c'est, est-ce que je l'apprécie, est-ce que je le vois? C'est là vraiment toute la force pour être capable de continuer, pas se laisser décourager. Puis, ici, j'aime ça parce qu'on voit la compassion de Jésus. Il était lent à comprendre. Il ne comprenait pas ce qui arrivait selon les Écritures. Mais Jésus était bon avec eux. Il leur a expliqué. Puis, il s'est fait connaître à eux autres. N'est-ce pas merveilleux de savoir que... Mon ami, on n'est pas à la hauteur de la situation. Si on essaie de performer comme on devrait, on va être déçu de nous-mêmes. Puis si vous savez jouer le jeu, bienvenue dans le club, c'est décevant. Mais savez-vous qu'on peut se rabattre? On peut se rabattre sur le fait que notre Dieu est patient, qu'il est bon, qu'il s'occupe de ses enfants, il nous enseigne. Et on voit ça ici. Jésus, bon, là, c'était quand même direct. Oh, vous êtes là à comprendre, ô homme sans intelligence. C'est dans sa bonté qu'il leur disait ça. Parce que c'est vrai, mais savez-vous quoi? Ils ont appris. Ils n'avaient jamais vécu ça avant, là. Quelqu'un qui meurt puis qui ressuscite des morts, ben même, c'était tout nouveau pour eux autres. Oui, oui, il y avait des Écritures, mais il y avait du bruit dans leur âme. Et on en a, nous autres aussi, mais je suis content d'avoir ce Dieu qui est patient, qui est bon, qui nous enseigne, qui nous prend par la main. J'ai lu dernièrement l'histoire d'un homme qui racontait comment... D'ailleurs, c'est un bon livre. Je vous le recommande. Ça s'appelle L'Adversaire, The Adversary, par Mark Bubeck, en tout cas, sur la guerre spirituelle. Puis la prière, on dit en anglais Warfare Praying, la prière combattante. Et là-dedans, il raconte l'histoire que, bon, lorsqu'il était aux études bibliques, ce monsieur-là a été assigné par son collège biblique d'aller faire un ministère à l'hôpital, okay, auprès des malades, puis tout ça. Puis, il commençait toujours au ministère en étant dehors et en donnant des traités aux personnes qui rentraient à l'hôpital. Puis, il raconte que la réaction typique des gens était plutôt réfractaire, pas agréable. Puis lui, en plus, étant d'une personnalité timide, il n'était pas là de l'avant. Fait que ce qu'il a décidé de faire après une semaine ou deux, il s'est trouvé un spot où est-ce qu'il n'y avait pas personne qui passait. Fait que c'était comme... Il était là à faire ce qu'il était supposé de faire, mais en fait, il ne le faisait pas. Okay? Fait que... Mais là, pendant qu'il était là, il était un peu plus proche de la porte. Puis là, il a entendu quelqu'un qui parlait, puis il entendait des bénédictions, puis « Ah, que le Seigneur vous bénisse! » Puis là, il s'en revient. Il se rend compte qu'il y avait un monsieur qui était en dedans, qui faisait la même chose, donnait des traités aux gens avec un sourire radieux, puis il disait « N'est-ce pas merveilleux de savoir que... Il y a de l'espoir au-delà de la souffrance, puis tout ça. » Puis il parlait aux gens comme ça d'une façon aimable et amicale, puis l'homme irradiait de la présence de Dieu. On voyait vraiment la joie du Seigneur sur son visage, la paix. Et au contraire d'avoir ce que lui avait été habitué, une réponse réfractaire, les gens, ils prenaient le temps de regarder ça. Des fois, même, il y en a qui s'arrêtaient, puis il fait juste le regarder. C'est qui ce monsieur-là qui a une pareille expression. Puis, il raconte même que ceux qui refusaient, parce qu'il y en a qui ne voulaient pas les prendre, c'est comme s'ils continuaient, mais c'est eux autres qui avaient honte. Et là, ça l'a piqué sa curiosité, évidemment. Et il s'est rendu compte, avec la suite des choses, que cet homme-là, en fait, était l'aumônier de l'hôpital. Il s'est rendu compte aussi que le secret de cet homme-là, pourquoi comme ça, il avançait, il triomphait de ce qui peut l'arrêter, d'avoir au lieu d'avoir peur des hommes comme notre ami était figé. Cet homme-là trouvait son secret dans le fait qu'à tous les jours, il avait son bureau, puis il s'en allait là, dans le secret de la prière avec son Dieu, puis il intercédait, puis il priait. Il cherchait la face de son... Il priait pour les malades qu'il allait visiter, il priait pour les gens qu'il allait rencontrer. Tout était baigné dans la prière. Et donc, quand il sortait avec la conscience de ce qu'il avait laissé là. Il était dans la présence de Dieu seul. Quand il parlait aux gens, il était encore dans la présence de Dieu. Il en était conscient. Mes amis, on peut dire théologiquement, « Ah, Dieu est omniprésent, Dieu est avec nous au milieu des chrétiens, de son peuple, il habite au milieu des louanges de son peuple. » Mais il y a une méchante différence entre le dire, puis en être convaincu, puis au point que, comme Moïse, que ça apparaît sur notre visage. Bien, cet homme-là, c'était le secret de son influence. C'était pas lui le secret de son influence. C'était Dieu qui était le secret de son influence. Il passait du temps avec Dieu, puis quand il avait fini, ça continuait. Puis c'était ça qui faisait la différence. Puis en passant, cet aumônier était connu, c'était dans la région de Chicago. Il était connu comme un l'aumônier de la place, puis celui qui fait la différence, que compassion, puis il a amené beaucoup de gens au Seigneur. Parce que il était dans la présence de Dieu, la présence de Dieu était avec lui. Mes amis, ça nous montre que le secret de la présence de Dieu, c'est la prière. C'est passer du temps en sa présence. Ça m'amène à la troisième considération ce matin, la troisième façon d'arriver à apprécier le Dieu immuable. Non seulement voir sa provision, non seulement voir sa présence, Mais si on en retourne dans Nombre 14, on va voir le dernier point du message ce matin, voir la puissance du Dieu immuable. Voir la puissance. On va commencer au verset 39. Et là, l'histoire avance, puis ici, on a une repentance tardive et malheureusement très inappropriée. Regardez ce qu'on va lire. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël. Donc là, le verdict de Dieu était tombé. Vous allez passer 40 ans dans le désert. Okay, le jugement était tombé. Et le peuple fut dans une grande désolation. Verset 40. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? » Parce que là, Dieu avait dit, « Vous irez plus. » OK? Fait qu'il s'avançait dans la désobéissance. Cela ne réussira point. Verset 42. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'Arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point au milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne et les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Le problème de ce groupe qui est ici, qui est parti à la conquête, mais sans rien conquérir, c'est qu'il n'y avait pas la provision de Dieu puis il n'y avait pas la présence de Dieu. Moïse le dit, vous n'avez pas Dieu avec vous. Si tu n'as pas Dieu avec vous, tu n'as pas non plus sa provision. Et donc, il y avait zéro puissance pour combattre les ennemis. Ils ont été honteusement vaincus. Une grande défaite. Savez-vous que c'est pareil pour nous autres? Lorsqu'on fait la bonne chose, lorsqu'on fait tout ce qu'on est supposé de faire, mais sans la puissance de Dieu, qu'on le fait par nos propres forces, savez-vous comment on appelle ça? La sanctification par les œuvres. On essaie de grandir dans le Seigneur, de faire sa volonté, mais tout en s'appuyant sur notre sagesse. Sans la puissance de la prière, sans la puissance de l'Esprit, c'est toutes nous autres. C'est des bonnes volontés, on peut même avoir une conviction de notre péché, mais on ne part pas avec l'Éternel, on n'est pas avec le Dieu vivant. On peut témoigner jusqu'à temps qu'on soit rouge, puis bleu, puis pas convaincre une grenouille, si on n'a pas la présence de l'Éternel. C'est l'Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ah, Dieu veut nous utiliser comme instrument. Mais n'osons pas nous lever puis ouvrir la bouche si on n'a pas la présence de l'Éternel avec nous autres. Même chose pour donner des conseils à quelqu'un pour élever nos enfants, pour tout ce qui est dans la vie chrétienne. C'est pas par notre puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Il faut puiser à la source des eaux vives. Et c'est le problème ici qui est arrivé. Plein de bonnes intentions, bien motivé. Oh, on va réparer. Il faut croire que la réparation sociale, ça a commencé, ça fait longtemps. Mais ça n'a rien donné. Venez avec moi dans Luc, on va aller faire notre parallèle avec l'évangile de Luc au chapitre 24. Regardez le verset 32. D'abord, le verset 32, on va voir un autre verset. Fait que là, nos deux amis, là, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Autrement dit, ils n'avaient pas vu, ils n'avaient pas reconnu le Seigneur. Mais regardez le verset 45 maintenant. Là, Jésus s'est révélé au milieu d'eux autres, il s'est fait connaître. Il a mangé avec eux autres. Alors, verset 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Mes amis, pour voir la puissance de Dieu, pour recevoir cette puissance, il faut la rechercher. Dieu rémunère ceux qu'il cherche. Il faut dire, Dieu, ouvre-moi les yeux sur qui tu es. Si on veut la puissance de Dieu, c'est pas comme une machine à piton qu'on pèse dessus, puis Dieu, je veux... Non. Il faut qu'on cherche Dieu. Dieu, c'est pas une force. Le Saint-Esprit, c'est pas... Non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est pas comme, ah, oh, je vais avoir la puissance de Dieu en demandant main. Non, Dieu, c'est toi que je veux, je te cherche toi. Si je trouve Dieu, je trouve toute la puissance dont j'ai besoin. Je crains que nous ayons des fois traité Dieu de façon impersonnelle en disant, oh Dieu, je veux ta puissance pour faire ci. Comme si je pouvais séparer Dieu de sa puissance. Dieu, c'est de toi que j'ai besoin. Si j'ai toi, je vais avoir tout le courage dont j'ai besoin, je vais avoir toute l'audace dont j'ai besoin. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Si tu es avec moi, j'ai rien à craindre. Mais pour ça, il faut qu'on le voit. Il faut qu'on soit transformé par ça. Et je veux juste amener un point par rapport à ça. On a touché à ça les derniers mercredis dans notre petite étude biblique qu'on fait. Mais vous savez, Dieu, en Jésus-Christ, comble absolument tous les besoins qu'on a. Ceux qui sont là le mercredi soir, vous rappelez-vous, c'est quoi les trois besoins fondamentaux qu'on a? On a... Hein? On a besoin de sécurité. OK? Vous savez, en Jésus-Christ, il dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. On a une sécurité. On est assis dans les lieux célestes en lui. Tout ce qui nous arrive, ça concourt à notre bien. Wow, tu parles de sécurité? OK. Il n'y a rien qui arrive que Dieu ne permet pas. Premier besoin fondamental, comblé en Jésus-Christ. OK? Le deuxième? L'acceptation. Je suis dans le bien-aimé. Rien de ce qui m'arrive, ça va être la preuve de dire que Dieu me rejette. Non, je suis complètement approuvé, accepté en Jésus-Christ. Pas parce que je suis une bonne personne, parce que je suis lavé dans le sang de l'agneau. Christ a versé son sang pour moi. Je suis en sécurité, j'ai l'appartenance, je suis accepté. Puis le dernier, c'est quoi? L'importance. J'ai de l'importance, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Pas parce que moi j'en ai, mais Christ a versé son sang pour moi. Christ est mon berger. Puis il s'occupe de moi. Je peux aller avec lui, avec toutes mes choses. Je peux me décharger sur lui de tous mes soucis parce que j'ai de l'importance à ses yeux. Savez-vous que c'est les trois besoins fondamentaux de l'être humain? Maintenant, le point que je veux amener avec ça, peut-être que vous levez lundi matin et que vous ne vous sentez pas vraiment de même. Ah, je ne me sens pas très en sécurité. Je n'ai pas l'impression que vraiment... J'ai tout ce dont j'ai besoin en Dieu, puis tout ça, puis je suis pas important. C'est pas grave comment qu'on se sent. Ça change pas les faits. C'est pas une question de sentiment. C'est comme si vous dites, j'ai pas l'impression que quelqu'un m'a donné 200 000$ à mon compte de banque. Je me sens pas comme ça. Ben, si vous avez vu, pas si quelqu'un est arrivé, peut-être vous nous le direz, là, ça va peut-être changer les finances. Mais 200 000$ en compte de banque, que tu le sens ou que tu le sens pas, c'est là. N'est-ce pas? Ou zéro, tant que là, vous allez le sentir plus, là. Mais c'est un fait. T'as pas besoin de te sentir bien, pas te sentir bien. C'est juste les faits, OK? Mais c'est la même chose. Dieu nous dit ça, c'est ce que vous êtes en Jésus-Christ. Savez-vous quoi? Ces choses-là, c'est des faits, mais qu'est-ce qui va faire que je les apprécie? Quand je m'arrête puis je suis dans la présence de Dieu, ça devient les réalités de ma vie. OK? Parce que tu dis, je ne sens pas que je suis uni avec Christ dans sa mort et sa résurrection, que je suis mort au péché, vivant pour Dieu. Passe du temps dans la présence de Dieu, tu vas voir. Ça va devenir de plus en plus réel, de plus en plus précieux, de plus en plus vrai pour toi. C'est déjà vrai, mais là, tu l'apprécies. L'appréciation du Dieu immuable. Mes amis, qu'on se rende compte, ce qu'on a besoin, là, c'est de voir ce qu'on a déjà pleinement en Jésus-Christ. Parce que tout est là. Et je pense qu'une grande leçon qu'on a dans le livre des Actes, n'est-ce pas qu'on voit la puissance de Dieu dans le livre des Actes? Hein? On voit, 3 000 qui se sont convertis en une journée, le jour de la Pentecôte. Wow! Mais il faut se rappeler qu'il était dans un contexte, je vous le rappelle, on le voit dans Luc, puis c'était pas fini, c'était du bouleversement. Là. Ces gens-là n'ont pas été accueillis avec le tapis rouge. Puis, venez, on est donc... Non, en fait, plus ça allait dans l'île des Actes, plus il était rejeté. Il ne pouvait plus aller dans le temple, il ne pouvait plus aller dans les synagogues. OK? C'était un bouleversement social. Puis, comparativement à la population, il était quand même une minorité. On dit, wow, 3 000. Ouais, mais sur des millions, c'est pas beaucoup, 3 000. Fait qu'il était petit, il était isolé, il était rejeté, il était ostracisé, vu que c'est les méchants, eux autres, c'est les sectaires. Je sais pas s'il disait des complotistes, là. Mais c'est ça le contexte, pareil. Nous, on dit, wow, c'était donc. Et la leçon à tirer de ça, de leur audace, de leur foi, de leur courage exceptionnel, c'est des gens de la même nature que nous, là. C'était pas des super-héros, là. C'est des gens bien ordinaires. Mais ils voyaient et ils croyaient que Dieu est avec eux autres, puis que si Dieu est avec eux autres, il y avait tout ce dont il y avait besoin, puis il y avait toute la puissance dont il y avait besoin. Puis c'est ça qui a fait la différence. Savez-vous comment ils s'en rendaient compte? Mes amis, quand on lit le livre des Actes, on voit la puissance de Dieu, mais on voit aussi la prière. Regardez comment ils prient dans Acte 4, Acte 5, puis on voit dans Acte 6, quand ils commencent à avoir des problèmes, là, la bisbille dans l'église, ils donnent des diacres pour qu'ils s'en occupent. Pourquoi? Pour qu'ils puissent vaquer à la prière et à la parole. Ils comprenaient l'essentiel. Et c'est de ça qu'on a besoin dans ces temps difficiles. Si on veut jouir de la puissance de Dieu, il faut qu'on se rappelle que Dieu est avec nous et qu'il pourvoit à absolument tout ce dont on a besoin. Si on a Dieu, on a tout ce dont on a besoin. Et on peut triompher, nous aussi, des circonstances dans lesquelles on est. Et où la différence? Est-ce que tu vois ce que Dieu pourvoit dans ta vie? Est-ce que tu crois que c'est ton besoin? La question, je le rappelle, si je ne crois pas à ce que Dieu me donne dans le moment présent, je ne serai pas prêt pour l'avenir. Puis ça ne sert à rien de m'inquiéter pour l'avenir. Il faut juste que je me concentre sur ce que mon Dieu, dans sa bonté, il me donne en ce moment, que je le prenne par la foi, je dis merci Seigneur. Puis c'est ça qui fait la différence. Et juste là-dessus, tu sais, pour tester un peu l'état de nos cœurs, savez-vous comment qu'on peut reconnaître si vraiment on prend par la foi ce que Dieu nous donne dans le présent? Savez-vous un excellent indicateur, voulez-vous que je vous le dise? Ah non, hein, on a passé midi, le rôti est dans le four. OK, on va conclure. Non, c'est très simple. Comment je peux reconnaître que j'accepte ce que Dieu me donne, que je le vois? Autrement dit, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sur la provision de Dieu, sa présence, puis sa puissance, comment je peux voir si c'est une réalité dans ma vie? La reconnaissance, la louange. Merci Seigneur. Quand je vois que je l'ai, tu sais, si je dis, hey, moi, ma Bible, tiens, je n'ai plus bien besoin, j'ai le goût de la donner à Nathanaël, tiens, je te la donne. C'est quoi la seule affaire que tu as à faire? Tu la prends et tu dis, qu'est-ce que tu es supposé te dire? Merci, n'est-ce pas? C'est pas plus compliqué que ça. Si je crois que hey, Dieu m'a tout donné ce dont j'ai besoin, puis c'est comment je fais pour savoir si vraiment. Merci Seigneur! Ce soir, on a un temps de louange. Et on va regarder ça ensemble dans la parole ce soir. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Sa présence est spécialement là. Pourquoi? Parce que lorsque, par la foi, je reconnais que j'ai tout ce dont j'ai en Jésus-Christ, puis tous les besoins que j'ai, c'est ce que je vais dire. Merci Seigneur! Donc, si vous voulez savoir, si vous murmurez plus en ce moment que vous dites merci, parce que vous ne voyez pas ce que Dieu vous voyez. Puis là, je ne suis pas en train d'accuser personne, parce que mes amis, j'ai murmuré exactement comme dans le livre des Nombres ces derniers temps, plus que j'aimerais l'admettre. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on a le même Dieu, le même Jésus qui a marché, qui était patient, qui a dit « Oh, homme sans intelligence, mais c'est quoi? » Il leur a parlé, puis les a enseignés, puis j'aimerais qu'on fasse la même chose ce matin. D'aller dans la présence de celui qui est patient, qui nous prend par la main, puis qui nous prend de là où on est, puis nous amène au prochain pas qu'on a à faire. Qu'ensemble, dans la prière, on puisse s'arrêter et juste réaliser ce qu'on a, qu'on le voit, afin qu'on entende celui qui nous voit et qu'on voit. Et mes amis, que ça puisse donner un peuple qui réellement, pas juste pour dire « Oh, gloire à Dieu » parce que c'est ça qu'un chrétien dit, mais du cœur, un peuple qui le loue, puis auquel vraiment Dieu peut habiter pleinement. Et quand ça dit que Dieu habite les louanges de son peuple, Dieu est tout le temps partout, mais il est spécialement là, sa présence manifeste, réconfortante, toute puissante, est là spécialement dans les louanges de son peuple. Donc, mon appel ce matin, c'est pas compliqué. Hey, Si vous n'êtes pas encore réconcilié par le sang de Jésus, si vous n'avez pas encore passé par la croix du calvaire pour être une fois pour toutes pardonné, purifié, lavé dans le sang de l'agneau, aujourd'hui c'est le temps favorable. On écoutait un message cette semaine, il disait, c'est encore l'année de grâce du Seigneur. Dieu a encore la porte ouverte pour la grâce. Si vous n'êtes pas encore sauvé, c'est pas de la faute de Dieu. Ses bras sont grands ouverts. Dans le moment présent, voyez qu'il est le seul sauveur, que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, qu'il faut que vous mettiez votre confiance et seulement en Jésus-Christ, en rien d'autre, pas dans vous, pas dans votre religion, pas dans rien d'autre, mais en Christ seul pour le salut de votre âme. Parce que Dieu désire qu'aucun périsse, mais veut que tous arrivent à la repentance. Donc, si vous entendez sa voix, endurcissez pas votre cœur. Et si vous êtes un enfant de Dieu, perdez pas de vue le Dieu qui donne toute la provision dont on a besoin, qui est présent parmi nous et qui est puissant pour accomplir sa volonté dans notre vie. On va prendre un temps pour prier, puis on veut juste tourner les yeux vers lui puis entendre sa voix. Merci Seigneur qu'on a ta parole qui nous ramène les yeux de la foi là où ils doivent être, sur toi. Seigneur, on te prie que tu puisses ouvrir nos yeux sur ta présence parmi nous. Le fait que tu as tout pourvu en Jésus-Christ, qu'on n'a besoin d'absolument rien, tu l'as déjà donné, mais trop souvent on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on murmure, c'est pour ça qu'on se plaint dans notre incrédulité. Merci Seigneur que tu es tout puissant pour surmonter tous ces obstacles, pour nous rendre plus que vainqueurs, pour triompher en toi. Merci pour ça, Seigneur. On te loue, on bénit ton saint nom. On te remercie de ce que tu nous as fait la grâce de te révéler à nous qui sommes tes enfants ici. Et on te prie pour ceux qui sont encore en dehors de Jésus-Christ, que tu te révèles à eux comme tu t'es révélé à nous, Seigneur. Que tu révèles ton Fils à leur cœur. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.